Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Le vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit encore largement à la une de ce journal, pays profondément divisé ce soir. À Londres, l'ancien maire Boris Johnson, tête de proue des eurosceptiques, a été hué devant son domicile par des anti-Brexit cet après-midi. Tandis que dans le quartier d'Avring, la sortie de l'Union européenne a été fêtée. Le reportage d'Isabelle Labéry au début de ce journal. L'invité du journal de 22h, c'est Julien-Pierre Nouhan, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion. Nous analyserons ensemble les conséquences économiques de ce vote pour le Brexit. En France, branle-bas de combat à l'Élysée, conseil des ministres extraordinaire cet après-midi. Le président Hollande, qui appelle à un sursaut européen, sera à Berlin dès lundi pour préparer le conseil européen de la semaine prochaine. Les explications de Stéphane Robert sont à suivre. Aux États-Unis, Barack Obama n'a pas laissé transparaître sa déception. Lui qui s'était engagé pour le camp du Remain, le président américain assure qu'il n'y aura pas de conséquences sur les relations spéciales entre Londres et Washington. Enfin, dans le reste de l'actualité, le chômage en légère hausse au mois de mai, mais la tendance reste orientée à la baisse, nous dira Guillaume Gaven. Un désaveu cinglant pour l'Union européenne, le vote pour le Brexit au Royaume-Uni laisse un pays divisé avec Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord qui souhaitaient rester, tandis que le nord de l'Angleterre ou le Pays de Galles ont largement voté pour une sortie de l'Union européenne. Drôle d'ambiance à Londres cet après-midi, au ressentiment des anti-Brexit s'est opposé la fête, comme à Avring, l'un des quartiers qui a le plus voté en faveur du Brexit à 70%. Isabelle Labéry, vous vous êtes rendue dans ce quartier de la capitale de l'Angleterre.
Depuis le centre de Londres, il faut une bonne heure de train pour rejoindre Avring. Dans cette banlieue populaire, l'Europe est un repoussoir. On la rend responsable de tout, mais surtout des mesures d'austérité, de la dégradation des services publics. Comme 70% des habitants, c'est donc presque par réflexe que Craig a voté pour un Brexit hier. Et sans vraiment d'illusion.
J'ai été choqué ce matin quand j'ai vu le résultat. Choqué mais content, parce que j'avais voté Leave. Mais au fond, j'y croyais pas trop. Ça va nous permettre de nous gouverner nous-mêmes, pas d'être dirigés par les non-élus de Bruxelles. Et on aura plus d'argent à dépenser pour nos écoles.
Après la pluie et les orages d'hier, un soleil radieux s'est installé sur la ville. Assise sur l'un des bancs de la rue piétonne, sa canne à portée de main, Shirley, 74 ans, savoure le beau temps et le résultat du vote.
Bon, ça prendra 2 ou 3 ans. On n'aura pas les bénéfices tout de suite, mais ça viendra avec le temps. Ce sont nos enfants qui vont en profiter. Moi aussi, si je suis encore vivante. Je croise les doigts.
En janvier dernier, Avring a beaucoup fait parler d'elle. Quand par 30 voix contre 15, son conseil municipal a été le premier de tout le Royaume-Uni à demander officiellement à Londres d'organiser un vote sur l'Europe. Aujourd'hui pourtant, personne ne fait de triomphalisme. Mais comme Tony, les habitants sont assez fiers d'avoir ouvert la voie.
Maintenant, tout le monde attend sur le banc de touche pour voir ce qui va se passer. Et plein de petits pays vont se dire, le Royaume-Uni a réussi à le faire, on peut nous aussi. Même en France, Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, non ? Quand votre gouvernement socialiste partira, c'est une chose qui peut arriver.
Et l'on voit cet après-midi dans les rues de Avring quelques journalistes, anglais et étrangers, venus pour essayer de comprendre le sens de ce vote.
Un reportage d'Isabelle Labéry. Les marchés ont été surpris par l'annonce de ce Brexit sur les places boursières asiatiques puis européennes. Les cours ont chuté avec des baisses de 5 à 8% dès les premiers échanges. La bourse de New York a aussi été touchée, mais moins violemment. Cette réaction ne surprend pas les économistes qui parlent d'un effet de sidération qui ne devrait pas se prolonger, mais entraîner un ralentissement économique. Invité du 22h, Julien-Pierre Nouhan, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion, nous parle de tempête financière. Il est interrogé par Jean-Marc Chardon.
Effectivement, on peut vraiment parler de tempête financière, dans la mesure où, en fait, sur les derniers jours, les marchés s'étaient clairement convaincus de la victoire du camp en faveur du maintien. On a vu qu'après l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox, les probabilités s'étaient progressivement augmentées pour un maintien. Et donc, les marchés sont véritablement pris à contre-pied, ce qui explique un peu la violence du choc. Je pense que si on avait eu des marchés plus équilibrés sur les derniers jours, le mouvement aurait été un peu moins violent, mais il est effectivement d'une ampleur très importante. Des mouvements comme ce qu'on a pu observer sur les devises, avec des devises qui baissent de 8% en l'espace d'une journée, sont tout à fait exceptionnels.
Julien Pierre, les marchés ont été effectivement surpris, alors qu'hier même on disait qu'ils prenaient le parti inverse, justement, ils pariaient contre le Brexit. Donc il y a un effet de sidération, c'est comme ça qu'on peut le désigner ?
Tout à fait, c'est vraiment le terme à employer. Les marchés s'étaient clairement convaincus et là aujourd'hui ils sont pris à contre-pied. Donc tous les gens qui avaient pu prendre des positions spéculatives en espérant un rebond, enfin une poursuite de la hausse après une victoire du oui, sont en train de couper leur position. On a énormément de volumes qui sont traités sur les marchés, que ce soit actions, sur les marchés de devises également, parce que les gens sont en train d'ajuster leur portefeuille, réduire leur prise de risque.
Alors cette situation-là, ces mouvements-là, ils peuvent durer un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est la question de savoir si on est parti sur une période d'instabilité de long terme ou pas.
Alors, notre sentiment est que très rapidement, les marchés vont se calmer. On a donc cette phase de sidération. Mais lorsqu'on réfléchit à la manière dont les choses vont se passer, on va voir que finalement, le flux de nouvelles susceptibles de faire bouger les marchés essentiellement à la baisse, va relativement diminuer par rapport par exemple à la crise de la zone euro où on avait vraiment des enchaînements et une vraie question au niveau de la liquidité des banques, sur la solvabilité des pays qui s'enchaînaient. Là, on sait à peu près comment les choses vont se passer. On sait que d'abord qu'elles vont prendre beaucoup de temps. La prochaine étape est que le gouvernement britannique active l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et ça, on a pu voir que donc ce matin, David Cameron a précisé qu'il ne le ferait pas et que ce serait son successeur qu'il remplacera en octobre qui devrait le faire. Et alors, il est vrai que du côté européen, on a plutôt une pression pour que les choses se fassent plus vite. On verra ce qu'il en ressortira. Mais ça ouvrira la voie à une période de négociation de 2 voire 3 ans. Donc, et ce n'est qu'à cette issue-là qu'on aura véritablement le Brexit. D'ici là, l'impact en fait va se jouer essentiellement sur le taux de change et aussi sur une augmentation de l'incertitude pour les investissements au Royaume-Uni.
Les conséquences d'un Brexit, est-ce que ça va pouvoir être ressenti à l'échelle mondiale ?
Ce sera sans doute un petit ralentissement de la croissance mondiale. Pour autant, lorsqu'on regarde les grandes zones comme les États-Unis, aux États-Unis, on voit plutôt une croissance qui est en train de réaccélérer aujourd'hui et l'impact de ce qui se passe aujourd'hui en Europe devrait avoir peu d'impact. En Chine, on a une croissance qui est en train de se stabiliser. Dans les pays émergents, on commence à voir un peu de mieux. Donc, est-ce que ça va enrayer complètement la dynamique de la croissance mondiale qui commençait à aller un petit peu mieux sur les tout derniers mois? Je ne le pense pas. Ce qui est sûr, c'est que on aura un ralentissement notable de l'économie britannique, un effet plutôt modéré sur l'économie de la zone euro, de l'ordre de 0,3-0,4 points de PIB, à comparer à un rythme de croissance qu'on pouvait espérer entre 1,5 et 2%. Donc vous voyez, ça ne suffit pas à ramener l'économie de la zone euro en récession.
Ah, Julien Pierre Nouan, donc on s'attend tout de même à une période d'incertitude qui sera plus ou moins longue avec des effets qui, pour vous, ne seront pas forcément catastrophiques.
Voilà, tout à fait. On pense que après cette phase de sidération, on aura quand même des éléments un peu plus constructifs qui devraient se mettre en place.
Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques chez Lazard Frères Gestion, avec Jean-Marc Chardon. En France, François Hollande place la sécurité et la défense en tête de ses priorités pour l'Union européenne. Le chef de l'État recevra demain à Paris le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, avant de se rendre lundi à Berlin pour un mini-sommet avec Angela Merkel, juste avant le Conseil européen qui commencera mardi. Le chef de l'État recevra également les représentants politiques français demain à l'Élysée. Stéphane Robert, l'Élysée justement est en pleine agitation.
Oui, branle-bas de combat pour François Hollande qui consulte à tout va. Claude Bartolone et Gérard Larcher sont en ce moment même à l'Élysée, président de l'Assemblée et président du Sénat. Juste avant, à 16h, vous l'avez dit, s'est tenu un conseil des ministres extraordinaire afin d'examiner les conséquences immédiates de ce Brexit en termes économiques, notamment pour les entreprises françaises. Et puis demain après-midi, le chef de l'État recevra les chefs de parti de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant par Nicolas Sarkozy. Tout ça, bien sûr, c'est dans la perspective d'une offensive européenne qui démarrera lundi à Berlin avec Angela Merkel et Matteo Renzi. Et puis le lendemain, direction Bruxelles pour un Conseil européen. Voilà pour la séquence. Sur le fond maintenant, c'est quoi le plan de bataille? Eh bien, François Hollande en a esquissé les contours ce midi lors d'une allocution depuis l'Élysée. Un sursaut est nécessaire, a-t-il expliqué. Il faut que l'Europe se recentre sur l'essentiel.
À Bruxelles, le président de la Commission européenne veut entamer immédiatement des négociations sur la sortie de la Grande-Bretagne. Jean-Claude Juncker ne veut pas attendre le mois d'octobre, comme le souhaiterait David Cameron, qui a annoncé sa démission en octobre prochain. Les précisions à Bruxelles de Bruno Cadenne.
Goodbye Britain. Les institutions européennes veulent divorcer d'avec Londres le plus vite possible. Une rapidité dans un premier temps pour éviter une éventuelle crise monétaire et boursière. La protection de la zone euro est d'ailleurs le sujet numéro un aujourd'hui à la Commission ou au Parlement. Dans ce cadre, l'annonce de la démission de David Cameron en octobre inquiète Bruxelles. C'est en effet au Premier ministre britannique de déclencher l'article 50, celui qui gère un départ de l'Union européenne. Bruxelles ne peut rien faire tant que Londres n'a pas entamé la procédure. Or, si David Cameron ne part qu'en octobre, est-ce que les choses ne vont pas traîner et attendre le futur Premier ministre eurosceptique qui s'installera au 10 Downing Street? Les institutions européennes ne veulent pas perdre de temps non plus pour des raisons politiques. Il s'agit d'éviter une contagion de référendums dans d'autres pays. Les dirigeants européens se sont donc rapidement adaptés. Depuis ce matin, ils parlent de protéger et d'améliorer l'Europe des 27, comme si le Royaume-Uni dans l'UE c'était déjà du passé. Cela crée une drôle d'ambiance dans le Parlement européen, avec d'un côté cette volonté de tourner la page et de l'autre ce mot géant écrit avec des feuilles de papier sur les fenêtres du bâtiment du Parlement. « We will miss you, vous allez nous manquer ».
Les précisions à Bruxelles de Bruno Cadenne. Le président des États-Unis, Barack Obama, s'est dit confiant dans le fait que le Royaume-Uni mènerait une sortie de l'Union européenne sans heurts après le vote en faveur du Brexit. Il a discuté cet après-midi avec le Premier ministre David Cameron par téléphone. En dépit de ses prises de position pour le IN, Barack Obama assure que ce Brexit ne changera rien aux relations spéciales qu'entretiennent Londres et Washington, Charlotte Alix.
Les démocrates, aussi bien Barack Obama qu'Hillary Clinton, tentent de ne pas laisser transparaître leur déception. Le président américain assure que l'Union européenne et le Royaume-Uni resteront des partenaires indispensables des États-Unis et évoque la relation spéciale entre Londres et Washington, un message qui contraste avec les propos qu'il avait tenus en avril lorsqu'il avait menacé le Royaume-Uni de passer en queue de peloton de ses relations commerciales avec les États-Unis en cas de Brexit. Aujourd'hui, Barack Obama joue l'apaisement. C'est aussi ce que fait Hillary Clinton, qui, comme le président américain, dit respecter le verdict des urnes et affirme que la première priorité est d'empêcher que l'incertitude à venir ne fasse du tort aux travailleurs américains. Au passage, la candidate démocrate y voit la preuve qu'il faut un dirigeant calme, posé et expérimenté pour succéder à Barack Obama. Reste que ce cataclysme géopolitique pourrait surtout profiter à Donald Trump, qui surfe allègrement sur la vague populiste et nationaliste qu'on observe des deux côtés de l'Atlantique. Les Britanniques ont repris leur indépendance comme les Américains reprendront la l'heure en novembre, a-t-il déclaré en substance, depuis l'Écosse où il est en déplacement. Le milliardaire s'était prononcé pour le Brexit. Il salue aujourd'hui une nouvelle fantastique.
Des précisions de Charlotte Alix. Dans le reste de l'actualité, le chômage en légère hausse le mois dernier de 0,3%. Près de 10 000 personnes supplémentaires se sont inscrites sur les listes de Pôle emploi en catégorie A. Mais sur les trois derniers mois, la tendance reste bien orientée à la baisse. 70 000 demandeurs d'emploi sortis des listes, c'est une baisse de 2%, Guillaume Gaven.
Près de 10 000 chômeurs de plus. Selon le dernier pointage de Pôle emploi, la France comptait fin mai 3,5 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A, soit effectivement une hausse de 0,3% par rapport à avril. Si l'on ajoute ceux qui exercent une activité réduite, on arrive à près de 5,5 millions de chômeurs en France. Mais la tendance reste tout de même favorable. Sur les trois derniers mois, 70 000 chômeurs sont sortis des écrans, soit une baisse de 2%. La tendance reste orientée à la baisse, ne manque pas de souligner le ministère du Travail. L'INSEE, qui avait publié la semaine dernière ses prévisions pour la fin de l'année, ne dit pas tellement autre chose. Il y aura bien une inversion de la courbe du chômage fin 2016. L'Institut de la Statistique table sur un taux de chômage de 9,4% contre 9,9% à la fin de l'année dernière. Alors, comment expliquer cette légère hausse ? Par des défauts d'actualisation, selon Pôle emploi. En clair, des chômeurs qui n'avaient pas pointé à temps ont été radiés en avril. Ils sont revenus dans les statistiques en mai.
La météo, 31 départements toujours en vigilance orange pour des orages violents jusqu'à demain matin, 6h. Le temps sera encore un peu orageux dans la matinée de samedi sur un grand quart nord-est. Temps clair sur le reste du pays et un franc soleil sur la façade méditerranéenne. Les températures, elles sont douces. Il fera 16 à Lille et Rennes, 18 à Toulouse, 22 à Strasbourg, 24 à Marseille.